RCF.
Oh, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, j'ai besoin de prendre l'air.
Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
Un chocolat chaud.
Ah oui, en plus c'est gratuit.
Absolument.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, envie d'un petit soin culturel et détente pour cette fin d'après-midi. Eh bien pas besoin de réserver, on vous sert tout de suite. Alors dans le fauteuil aujourd'hui, partir camper entre ados sans l'autorisation de ses parents. C'est plutôt banal aujourd'hui, mais c'était beaucoup moins dans les années 70. Une évolution des mœurs que nous retracera Marie-Vonne Busse dans le cadre des 150 ans du magazine Pèlerin. Et puis il a la réputation de se fondre dans le paysage sans qu'on le trouve, c'est le caméléon. Un animal haut en couleur dont Agathe Dutot nous dévoilera ses secrets dans le rendez-vous animalier du mercredi. Lui aussi, de chauffeur de taxi en président de la République, en passant par facteur à cailloux, chef de bande anarchiste, il a su se fondre dans ses rôles divers et toujours avec bonheur et talent. Et aujourd'hui, eh bien, c'est en homme debout qu'il nous revient. Bonjour Jacques Gamblin.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, mes collègues m'ont dit « Mais quelle chance, on l'adore Jacques Gamblin !» Comment est-ce que vous expliquez cette image ô combien sympathique?
Ah, ce serait à moi d'expliquer la sympathie.
Expliquez-moi pourquoi vous êtes sympathique.
C'est horrible. J'espère.
La sincérité, peut-être.
Je tente de l'être, c'est tout ce que je peux dire, mais, ouais. Mais bon, parfois j'y parviens, apparemment, ouais. Mais sans doute pas toujours.
Bon, c'est en 90% des cas. En tout cas, Jacques Gamblin, comédien au cinéma, à la télévision, mais aussi au théâtre, auteur et parfois même musicien, mais oui, on y reviendra. Votre actualité, c'est la sortie le 17 mai prochain de Un homme debout, un film réalisé par Florence Vignon, qui était la scénariste de Mademoiselle Chambon avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Alors, qui est cet homme debout qui refuse de s'asseoir dans un canapé? On va le découvrir en avant-première, de même que revenir sur votre parcours. Tout doux, tous debout avec Jacques Gamblin, c'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletti.
C'est non.
On peut discuter.
C'est non. Ils le savent très bien. Ils ne peuvent rien contre moi. Mais c'est minable de servir de vous.
Non, mais je comprends pas qu'on puisse même pas en discuter.
Oh, vous allez me lâcher avec ça, oui, ou merde.
Non, mais Henri. Henri, s'il vous plaît. Henri, écoutez-moi.
Mais non, non, c'est non. Alors pourquoi Henri Giffard, VRP en papier peint, refuse obstinément de partir en retraite? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce film Un homme debout, un film qui est d'ailleurs l'adaptation d'un livre, Il déserte, de Thierry Benstingel, qui est sorti chez Fayard en 2012. Je ne sais pas si vous aviez lu ce livre avant le tournage.
Oui, 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 j'ai lu ce livre. J'aime bien m'informer avant le tournage.
Savoir où vous allez mettre les pieds.
Ah oui, mais surtout. Mais, non, ouais. Non, mais j'aurais pas, on m'aurait interdit de lire le livre.
Bah, certains ne le lisent pas cachette, forcément. Vous l'avez lu. Oui.
De toute façon, j'aurais accepté de jouer dans ce film à la lecture du scénario. J'ai beaucoup aimé ce livre de Thierry Benstingel, qui a un vrai style, d'une très jolie singularité. Et oui, puis c'est nourrissant pour les personnes. Moi, je suis pour me nourrir au maximum de tout. Après, je fais ma cuisine avec tout ça.
On va revenir sur ce film, mais auparavant, un petit flashback, comme on dit en bon français cinématographique. Jacques Gamblin, vous êtes né à Granville, c'est en Normandie, près de la baie du Mont-Saint-Michel, ce qui est déjà pas mal comme décor de cinéma. Fils d'un couple de commerçants en quincaillerie, qui va d'ailleurs être le titre d'un spectacle que vous allez jouer en 92. C'est un univers qui vous fascinait, la quincaillerie?
C'est un univers qui me fascinait par son stock, en fait. Ce mot de stock qu'on entendait sans arrêt.
De devise de boulon.
Parce qu'il faut s'imaginer, il faut s'imaginer une boutique assez grande, et enfin même deux boutiques, puisque deux boutiques communiquées, une avec liste de mariage, tout ça, des cadeaux, et puis l'autre plus proprement quincaillerie électroménager. Enfin, on était parti. C'est cinq générations. Donc, ça part des routes charrettes, charron, et ça vient sur une quincaillerie de bâtiment, puis ensuite, plus ménage, électroménager, etc. Mais c'est quatre étages de réserve, ça n'en finit pas.
Impressionnant.
C'est labyrinthique. Ouais. On passe d'un quartier à l'autre en montant dans les réserves, et au moment de l'inventaire, bien sûr, c'est complètement délirant. Donc, c'est ça qui me fascinait. C'est le stock, c'est pas tellement la boutique, les clients servir et tout ça. C'est comment à l'époque quelqu'un arrivait et disait je voudrais une vis de temps et il repartait avec une vis Voilà, on était déjà dans les Trente Glorieuses, mais néanmoins on n'était pas encore dans le sachet où on a besoin d'une vis puis on est obligé d'acheter le sachet.
Être acteur, parce que vous auriez pu être quincailler, hein, puisque c'était une tradition familiale, mais être acteur, est-ce que c'était déjà un rêve d'enfant ou pas du tout ?
Pas du tout. Non, j'ai découvert ça en faisant très simplement un stage de voilà où il y a eu une heure d'expression corporelle et puis j'ai eu l'impression de partir en lévitation pendant une heure ou deux. Ça m'a alerté le cerveau après m'avoir alerté le corps et comme cette personne qui a animé ce stage était directeur d'une jeune compagnie ensuite que j'ai fait venir jouer à Granville et j'ai sympathisé avec eux, j'ai fait un stage de plus longue durée, de 3 semaines en été après avoir eu le bac dans la poche. Et à suite à quoi il m'a proposé de remplacer son technicien, son régisseur.
C'est comme ça, c'est technicien que vous avez commencé. Voilà. Après, vous êtes passé sur scène. Voilà. Et puis après, vous avez un peu arrêté. Vous avez suivi une formation de menuisier, je crois. Oui, et puis vous êtes revenu sur scène. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que menuisier et comédien, il y a une correspondance dans l'art de, je sais pas, d'ajuster les pièces, de la précision?
En tout cas, j'ai un goût pour l'artisanat et je pense toujours mon métier en ces termes, d'ajuster des pièces, d'attendre que le bois soit sec, d'attendre qu'il prenne le temps, qu'il sèche et puis faire des meubles, mettre des chevilles plutôt que des clous, quelque chose de propre quoi.
Le quincailler après du théâtre et du cinéma,
fabriquer un personnage, c'est ça aussi, c'est que ça soit ajusté, que ça soit cohérent, c'est un être humain, alors c'est beaucoup plus complexe et mystérieux.
Mais il y a quand même cette précision, abstrait. Cette recherche de la précision. Alors vous allez commencer par le théâtre à Brest, à Lorient, puis à la Comédie de Caen, vous allez travailler comme intermittent dans différentes compagnies, commencer aussi à tourner dans des fictions télé, puis au cinéma, notamment avec Claude Lelouch qui va vous faire tourner dans 3 films, donc tout ça pour ça en 93, c'est aux côtés de Fabrice Lucchini, Francis Huster et Vincent Lindon. Le début d'une carrière qui ne va pas s'arrêter. Je vous propose une petite filmographie sélective et très subjective en moins d'une minute trente.
Super.
Qu'est-ce que vous savez faire de mieux ? Vous embrassez mieux ?
Les hommes le font mieux que les femmes.
Ah, c'est les hommes qui disent ça, c'est sûr, ça nous arrange.
Il y a des jours, tu vois, je suis bien content de te connaître, monsieur Riton.
Ah bon ? Et le restant de l'année, c'est comment ?
Partout, je te vois, partout. Dans les berceaux, sur les trottoirs, dans les marchés. Tu pleures, tu rigoles, tu poursuis les touristes avec un éventail, tu t'enfuis.
Les Américains, 7 000 $, faut décider vite.
5 000, 6 000 $, et alors ?
À propos, quand est-ce que vous nous en faites des petits-enfants ?
Oh non, hein ? On a décidé de sauter une génération.
Plaisantez pas avec ça. C'est important, vous avez une famille. Vous regardez grandir tous les trois, c'est le plus beau spectacle auquel j'ai assisté dans toute ma vie.
Pourquoi moi ? Je vois de Jospin.
Bah toi c'est pas pareil. Toi, tu me plais ?
Tu sais, j'aimerais pouvoir te donner autant que tu me donnes.
Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres et les oiseaux me disent comment faire.
Et tu veux faire ça quand ?
Le soir, la nuit, après ma tournée.
Mais tu es fou !
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Paul Deschanel, président de la République.
Étienne Radeau, reine d'Angleterre.
Disparu ?
Volatilisé.
Et puis, il faut s'attendre à tout.
C'est pas tous les jours facile de changer la France.
Voilà, pas facile tous les jours de changer la France. Un certain président pourrait encore le dire. Extrait du Tigre et le Président, votre avant-dernier film avec André Dussolier, qu'on avait d'ailleurs eu le plaisir de recevoir pour cela. Mais vous avez aussi pu reconnaître Les Enfants du Marais de Jean Becker, Oli Lola de Bertrand Tavernier, Pédale 12 de Gabriel. Voilà, je vous sentais. Il y avait aussi Le Nom des gens avec Sarah Foresti, en militante très proactive. Hein, sans oublier ce père chef de famille émouvant du premier jour du reste de ta vie de Rémy Besançon. Encore cette incroyable histoire du facteur cheval. Plus d'une 50aine de films. Je ne sais pas quel regard vous jetez sur cette filmographie, Jacques Gamblin.
Un regard de joie, un regard de surprise, d'étonnement permanent. Je n'aurais jamais cru ça. J'ai jamais imaginé. Je n'ai pas rêvé ça non plus. Je suis juste heureux quand je me retourne. En effet, je suis juste. Et je me dis, alors là.
Chapeau.
C'est pas chapeau, c'est
quelle
chance, toutes ces rencontres et puis tout ce qui arrive maintenant, c'est juste plus.
Ce qui se dégage tout de même quand on regarde votre filmographie, c'est que généralement vous interprétez des personnages un petit peu lunaires, idéalistes, romantiques, parfois naïfs, mais toujours sincères. Est-ce que ça correspond à votre nature profonde ou c'est une orientation où vous enferme un petit peu les réalisateurs ?
Alors comment répondre à ça? Sincère, c'est la moindre des choses, non?
Non, mais un peu lunaire, un peu idéaliste, oui, hein, par exemple le facteur cheval ou le Paul Deschanel.
Oui,
hein,
ou Deschanel, oui, mais j'aime bien.
Vous aimez bien ce genre de personnage?
Mais j'aime bien ces personnages qui ont une petite poésie, une étincelle comme ça. Après, on proposerait l'inverse. Je suis prêt quand je joue Bono. Après tout, Jules Bono, cet anarchiste un peu violent.
Dans les Brigades du Tigre.
Ça marche aussi. Je suis heureux dans des emplois différents. Je sais pas. C'est une couleur, oui, qu'on me donne. Mais en même temps, ce qui me plaît surtout, c'est que ce soit quand même jamais le même personnage et jamais dans les mêmes films ou les mêmes styles de films. Par contre, ce qui peut les rapprocher les uns des autres, c'est au-delà de ça, c'est la capacité d'humour du film et sa profondeur en même temps, ces parallèles-là. Ça, c'est des choix que
Voilà, profondeur et humour, ce sont vos critères hein, dans les lectures des scénarios.
J'aime bien qu'on détende le ventre du spectateur avant avant de le toucher en profondeur. Oui, j'aime bien ça.
Alors, votre
en tout cas, j'aime bien quand ça m'arrive à moi aussi comme spectateur.
Alors, comme acteur aussi. Alors, votre actualité, c'est la sortie de Un homme debout le 17 mai au cinéma. On va y venir. Ça sera juste après une première page musicale que vous nous proposez, comme on le demande à nos invités. Et pour commencer, eh bien, c'est Lost Horse de Asaf Avidan ou Avidan. Alors, je ne sais pas si je prononce bien.
On peut dire Avidan, à mon avis, mais je suis sûr de rien.
Vous nous expliquez ce choix?
Ah, bah, écoutons-le d'abord, non?
Oui, mais ça serait bien si on avait quelques clés, peut-être qu'on l'apprécierait encore davantage.
Ah ben moi c'est un cri, je reçois ça en plein estomac. J'ai regardé l'autre jour les paroles en français. Il y a de l'abstraction, mais ça parle aussi d'amour, de perdition, de et je reçois ça vraiment en plein dans le centre de gravité, avec une voix incroyable, ça va très loin, enfin voilà, pour moi ça me rentre à l'intérieur en fait, ça me fait vibrer les entrailles.
Eh bien on va voir si les auditeurs ont la même impression.
Oui, c'est pour ça que je voulais pas en parler avant.
C'est bien de se savoir aussi pour s'attendre au choc. Lost Horse, et puis on se retrouve après.
Back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps, your little feet. Surprised by memories speeding on the road, I wish we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly on me. The sun now, Father God, as we were bound to fail. I want you to hold me perpendicularly. It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while fighting love. Honey, this ain't love.
Lost Earth d'Hassan Avidan. Alors vous n'avez pas l'image, mais moi j'ai en face de moi Jacques Gamblin qui est en train de vivre cette musique, vraiment de vibrer, comme vous disiez tout à l'heure, hein, vraiment quelque chose qui rentre à l'intérieur. Merci de nous avoir fait découvrir en tout cas cet artiste. Votre choix, Jacques Gamblin, comédien de grand et petit écran, mais aussi au théâtre et à l'affiche le 17 mai prochain de Un homme debout de Florence Vignon. Petit extrait de la bande-annonce.
Bon, On a un gros problème avec Giffard. Oui, vous vous rendez compte qu'il a toutes ses annuités, mais qu'il s'accroche. Petite retraite tout en douceur. Il arrivera à me le convaincre, hein?
Tu le connais bien, toi, Giffard? Spécial. Très spécial.
Je fume beaucoup.
Et vous avez jamais pensé à ralentir?
Oh bah, j'ai quand même beaucoup diminué.
Tu vas pas ralentir un peu, dis. Toujours à courir après le chiffre, le chiffre, le chiffre.
Il n'y a aucune honte à ça d'avoir envie de se reposer.
Faites-le bosser, crevez-le, qu'il n'en puisse plus. Je sais que vous pouvez y arriver. Je le sais. Vous voulez rester dans la boîte, oui ou non?
Alors l'histoire, eh bien, on l'aura deviné à travers cette bande-annonce, celle d'une jeune cadre en ressources humaines engagée dans une entreprise de papier peint, à condition qu'elle pousse à la retraite un représentant sexagénaire, lequel n'a pas du tout l'intention de battre en retraite. Alors cet homme, c'est Henri Giffard que vous interprétez, un homme un peu spécial, hein, comme on vient de l'entendre. Comment est-ce que vous le définiriez, Jacques Gamblin?
Un résistant, un solitaire, un type qui travaille à l'ancienne, qui aime la relation humaine, un peu soupolé, perfectionniste, un peu psychorigide, beaucoup de défauts, mais un grand cœur qui se dissimule derrière tous ses défauts.
Ouais, un homme qui va voir ses clients sur le terrain, leur sert même de psy, hein, très attaché à son travail, à ses produits qu'il défend, quitte même à avoir sacrifié sa vie de famille, mais ça on va en reparler dans un instant. Et alors face à lui, il y a Clémence Alfaro, elle est interprétée par Zita Enro, c'est une jeune femme apparemment ambitieuse qui sort d'une école de commerce et qui veut contribuer à rajeunir la boîte où elle veut être embauchée, mais elle aussi elle a ses failles.
Bien sûr, ces deux êtres fragiles qui se rencontrent à un moment, elle a ses failles parce qu'elle a d'abord une famille très fragile aussi, ça se passe pas super bien avec sa mère, sa sœur, enfin, etc. Avec un père qui a disparu et elle a besoin de ce boulot absolument et elle se rend compte que ce boulot au bout d'un moment ça l'emmène dans un tunnel dont elle va voir la lumière que très tardivement.
Entre les deux qui sont vraiment très différents de personnalité, il y a comme un lien quasi filial qui va se nouer. Dans quelle mesure?
Oui, il y a une génération d'écart clairement, elle pourrait être ma fille cette jeune femme ça doit être assez délicat pour lui d'être bousculé par cette jeune femme, ce loup un peu acariâtre. Et ce qui est très beau, c'est l'évolution bien sûr de leur relation où ils vont découvrir comme ça va se fissurer quoi. Et tout ça surtout sans aucune ambiguïté, c'est ça qui est magnifique. Ils vont se rendre compte peu à peu que cette rencontre là ce serait con de la rater.
Avec ce film, on peut pas s'empêcher de faire référence à l'actualité avec toutes les manifestations pour contester l'âge du départ à la retraite. Hein. Mais Giffard, lui, il s'y refuse. Il refuse de partir. Pourquoi, au fond, continuer? Comment vous l'expliquez?
Pour deux raisons. Parce que d'abord, il aime son métier, tout simplement. Hein, comme nous, souvent, les acteurs, les métiers passion, on a du mal à se séparer,
à décrocher.
Alors c'est aussi un piège parce que de toute façon un jour ça se fera et autant le préparer. Donc ça c'est clair, la passion pour son métier,
mais aussi la peur de la solitude,
le plaisir qu'il a à rencontrer les clients quoi, les commerçants, et évidemment voilà, de l'autre côté ça lui donne du sens à sa vie parce que sa vie en a perdu et qu'il est profondément seul en effet. Sa femme est partie à un moment donné parce qu'il n'était jamais là. Son fils, on sent que leur dialogue est pétri de non-dits. Et donc le boulot lui donne une raison d'exister, une raison d'être debout.
Une raison d'être debout. Alors cela dit, dans ce film, il y a des moments qui sont assez savoureux, des réflexions sur justement la volonté de rester debout, et ça passe par le canapé. Écoutez.
Monsieur Giffard.
Le canapé est une arme de soumission massive, mademoiselle Alfaro. Regardez autour de vous.
Re-sujet.
Combien d'années il a fallu à l'homme pour se mettre debout, à votre avis?
Je sais pas. Des dizaines de millions d'années, j'imagine.
Exact. Et aujourd'hui, cet homme-là s'affale tous les soirs devant sa télé, il s'endette, il vit à crédit, et finit par ne plus vivre du tout. C'est devenu un homme assis. Le canapé est une cause majeure de divorce, mademoiselle Alfaro. Faites-moi confiance. Vous avez un canapé, vous ?
Et vous, Jacques Gamblin, vous avez un canapé?
Oh, qui n'a pas de canapé? En fait, moi.
C'est pas de canapé chez vous?
Non, ici à Paris, j'ai pas de canapé. Je ouais. suis souvent par terre, sur des coussins ou sur sur mes genoux, assis un peu, je sais pas, de façon un peu yogi. Tout le monde se demande comment j'ai pas les genoux en compote. Parce que même l'écriture, j'écris des heures et des heures comme ça, assis sur mes genoux.
Et canapé, arme de soumission massive. Je sais pas si ça va plaire à certaines enseignes. Alors, Ikea, Conforama, But, non.
Écoutez, ces enseignes, je pense, n'ont pas besoin de nous ni de ce film pour faire du chiffre.
Mais qu'est-ce qui se dégage derrière, en fait, cet extrait, cette soumission?
Mais il se dégage plein de vérités, parce qu'on s'affale, en effet, parce qu'on se fait en plus mal au dos, et bon, ben, tant mieux, ça nourrit les ostéopathes, mais il se passe quoi? Ben, qu'on est tellement engoncé là-dedans comme dans un nid et qu'on sort plus, et ces canapés sont énormément usé évidemment sur les mois et de confinement devant les plateformes, on sait ce que ça a donné pour le cinéma, etc. Et les sorties, le besoin qui s'est amenuisé des gens de sortir, de se rencontrer, de créer du lien, etc. comme on dit. Et donc vraiment le canapé a à la fois été content, mais a souffert de tous ces culs qui transpiraient sur lui.
Qui transpiraient sur lui. On va continuer à parler des thèmes de ce film, mais le mercredi, on se replonge aussi dans le passé avec Marie-Yvonne Buss, elle est rédactrice en chef du Pèlerin. Un retour sur un événement qu'a couvert le magazine à l'occasion de ses 150 ans, 150 ans qu'il fête cette année. Et aujourd'hui, eh bien, on va planter la tente.
Tout doux, 150 ans d'histoire avec le Pèlerin.
Et bonjour Marie-Yvonne.
Bonjour Vincent.
Alors, cette semaine, dans votre rubrique d'archives, vous avez sélectionné un article estival daté du 26 juillet 1970. Le sujet semble banal, à savoir un reportage auprès des jeunes qui sont partis camper.
Oui, mais en réalité, il ne l'est pas tant que ça, puisque nous sommes 2 ans après 1968 et les modèles familiaux sont en train d'évoluer à toute allure. La question de l'autorité des parents, notamment, fait débat et les lecteurs du Pèlerin s'interrogent. Peut-on vraiment les laisser partir à l'aventure comme bon leur semble, et sans le moindre parent dans les parages? Le sujet était suffisamment neuf pour que le journal décide de dépêcher un reporter dans le Finistère Nord.
Et que découvre-t-il donc ce journaliste dans ce lointain Finistère?
Il y rencontre longuement donc une bande de jeunes qui campent en bord de mer dans le champ d'un agriculteur, et il est touché par leurs revendications d'indépendance et même, écrit-il, par leur fierté sauvage. Je le cite. Alors, que cherchent-ils ensemble lorsqu'ils plantent leur tente sur les dunes? Je n'attends pas de couplets lyriques sur les bienfaits de la nature. Au cours des multiples conversations avec ces ermites du bord de mer, je constate depuis quelques jours que les réactions contre la vie urbaine ou les conventions de la grande société ne tournent pas à la bucolique. On vit d'abord, on poétisera après. Et donc, avec beaucoup de bienveillance, ils décident de leur donner largement la parole.
Alors, justement, que disent-ils ces jeunes sauvages, entre guillemets?
Alors voici ce que confie une certaine Marie-Antoinette de 18 ans. Ce que l'on cherche, d'abord être ailleurs, c'est un besoin violent. Si on ne sort pas ensemble quelques jours au hasard, rien ne va. On cherche à se mettre à part, entre jeunes de préférence. Et si on se met à l'écart, c'est parce qu'on sait qu'on ne se couche pas très tôt, que l'on fait beaucoup de bruit et que ça dérange les familles avec leurs gosses. Quant aux propositions d'activités qui sont organisées par le foyer local des jeunes, alors là, elles tombent complètement à plat. Je cite à nouveau cette Marie-Antoinette. Si c'est trop du genre pas trop, avec des trucs idiots de gamins, on rejoint la tente. Vraiment un nouveau modèle qui se met en place.
Beaucoup d'ados aujourd'hui, justement, pourraient dire la même chose. Mais dans l'article, Marie-Yvonne Buss, une autre jeune fille raconte que certains autochtones regardent cette petite bande, on va dire, d'un sale œil. Pourquoi?
Bien, pour une raison toute simple, ce groupe est mixte. Des garçons et des filles qui, en 1970, dorment aussi librement ensemble. Il y a un demi-siècle, ça n'allait pas de soi. Alors, comme le note avec humour notre reporter, les garçons ne sont pas simplement les mécaniciens des vieilles bagnoles qu'il faut équiper pour un grand départ. On ne se fait pas d'histoire là-dessus. Mais les jeunes, eux, ils revendiquent l'authenticité de ces relations. Une certaine Maggie témoigne. C'est bien plus sérieux et plus sain que les amourettes des voyages organisés.
Et aujourd'hui, est-ce que le Pèlerin continue à scruter l'évolution des mœurs familiales?
Oui, alors tout à fait, et notamment en soumettant les questions de nos lecteurs à notre chroniqueur, le pédopsychiatre Marcel Ruffo. Mais c'est surtout dans notre rubrique « Quelle époque ?» qu'on prend en charge ces questions chaque semaine. Et on va y décrypter, par exemple, tous ces grands et petits sujets qui agitent les familles. de l'usage de TikTok à ces jeunes qui réclament exclusivement des repas végétariens à leurs parents.
Eh bien, bon appétit, notamment quand on doit passer à table. Merci Marie Von Bus, les jeunes au camping et sans parents, un article à retrouver dans le nouveau numéro de Pèlerin qui sort en kiosque dès demain. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre plongée dans l'histoire. À bientôt.
Merci Vincent, à bientôt.
Doudou avec Vincent Belletti.
Je ne sais pas si vous aviez déjà planté une tente dans votre jeunesse, dans votre folle jeunesse, Jacques Gamblin.
Ah oui, j'adorais ça, camping sauvage. À 16 ans, je traversais la France en stop. Je suis encore surpris que mon père m'ait laissé faire ça.
Ah oui, parce qu'on parlait d'autorisation des parents, là, ils vous laissaient partir.
Ils m'ont laissé partir.
Confiance.
Voilà, je suis parti en stop, j'ai rejoint Granville, j'ai rejoint les Pyrénées et j'ai rencontré des gens, j'ai eu peur, j'ai eu raison par moment d'avoir un peu la trouille et tout ça, mais au final ça s'est bien passé. J'étais fier de moi et j'allais voir là-bas un grand oncle, un vieil oncle. C'était un objectif que je ne connaissais que par des courriers. Et j'avais 16 ans et demi. Ouais.
Bon. Toute une aventure.
Ouais.
La nature et sa préservation, c'est aussi une cause qui vous tient à cœur. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, Jacques Gamblin, comédien à l'affiche de L'Homme debout de Florence Vignon. Ça sort le 17 mai. On va continuer d'en parler, de même qu'on va redécouvrir un animal qui adore se fondre dans le paysage. À tout de suite.
Ma vie en mieux.
Accepter de vieillir. Dans les faits, comment aborder cette étape clé de l'existence avec sérénité, voire avec envie? Cette semaine, dans Voyage intérieur, Marie-Charlotte Laudy reçoit Marie de Henzel. Cette psychologue et psychothérapeute, spécialiste de la vieillesse, nous donne des pistes de réflexion. Voyage intérieur, c'est ce mercredi à 15h et 21h.
Témoignage pour la Fondation RCF.
Notre monde est complexe et les médias déversent tellement de mauvaises nouvelles. Heureusement, j'écoute RCF. La joie partagée à l'antenne éclaire ma journée et nourrit aussi mon espérance. Faire un don à la Fondation RCF dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière, pour moi, c'est une évidence.
Parce que le monde a besoin de sens, RCF a besoin de vous. Comme Céline, donnez sur fondation.rcf.fr.
Écoute dans la nuit, Louis Auxile Maillard.
Aimez-vous votre pays un peu, beaucoup, pas du tout, et surtout pourquoi au lendemain de la commémoration de l'armistice? Dites-nous ce que l'attachement à la patrie vous inspire. Écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h.
Tout doux, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Jacques Gamblin, comédien, cinéma, télé et théâtre, qu'on va retrouver le 17 mai prochain à l'affiche de Un homme debout de Florence Vignon, ce VRP sexagénaire commercial en tapisserie et papier peint qu'une jeune canne va avoir pour mission de pousser à la retraite si elle veut être engagée. Alors dit comme ça, on pourrait s'attendre à un film un peu dur, à la Ken Loach, drame des vieux poussés vers la sortie. Alors c'est vrai qu'il y a la pression de la direction qui veut rajeunir personnel et produit, d'ailleurs le directeur est pas mal là-dessus, mais c'est quand même plus subtil que ça dans ce film, parce que derrière il y a aussi le contexte, il y a un monde qui meurt, celui du papier peint qui est passé de mode. C'est pas anodin d'avoir choisi ce domaine économique pour vous, Jacques Gamblin?
Ah non, ça m'a réjoui, ouais. Ce papier peint, pourquoi? Parce que c'est un domaine, c'est une niche comme ça, c'est très, très particulier. Et puis moi, je me souviens, dans mon adolescence, c'était le pays du papier peint. C'est dans les années
80.
Voilà, oui, bah oui.
Ouais, oui. On a tous connu
et
ça.
Et puis après, la peinture a pris un peu le dessus, on peut le dire. Et maintenant, c'est devenu une matière de luxe, hein, le papier peint. Et il y a des très, très jolies choses, oui.
Mais dans ce film, on a l'impression que c'est quand même un monde qui meurt un petit peu.
Alors, il y a cette merveilleuse idée qui me paraît complètement absurde, mais qui me fait rire, c'est l'idée d'associer le mobilier au papier peint pour continuer à vendre encore, trouver des idées de marketing complètement con. Mais
c'est un petit peu l'idée du nouveau chef de cette petite boîte où travaille donc Jiffa. Le papier peint, symbole d'une époque qui a pourtant toute son histoire, sa diversité, son savoir-faire, comme dans cette séquence où Jiffa fait découvrir cette passion du papier peint à sa jeune collègue.
Regarde ce bleu. C'est du faux uni. Si tu observes bien, les volutes de blanc dessinent comme des petits nuages. Tu vois ?
Il est voit les volutes.
Il est... Oui, il invite au rêve. Mmh. C'est pour ça que cette nouvelle collection est particulièrement intéressante, parce que elle te laisse libre, tu vois. Elle ne ferme pas le sens. Elle propose, tu disposes. Mmh. Venez toucher la qualité. Allez-y, mademoiselle Alfaro, faut connaître le produit dont on parle. Le sentir, physiquement. C'est notre nouvelle qualité de vinyle sur un tissé. Vous sentez le grammage, en même temps souple et résistant.
Ah oui. Oui, oui.
Voilà, le papier peint qui s'apprécie comme un cépage, comme un bon vin, ce qui sera d'ailleurs le cas d'une séquence suivante où Clémence va prendre son cours d'œnologie. C'est quand même assez marquant, hein, cet extrait, Jacques Gamblin.
En effet, elle est dans la bande-annonce, cette séquence avec Bruno Abraham, Kremer, qui est formidable.
Ouais. Qui écoute le papier peint, qui le met à son oreille.
Oui, moi j'adore, parce que ça devient quasi burlesque, cette chose, mais très délicat, voilà, on ne sait pas, c'est du lard ou du cochon. J'adore ça. Non, c'est du papier peint. Ouais. Et voilà.
Alors et ça se savoure comme un grand cru.
Voilà, ouais. C'est ça. Et ce qu'ils ne vont pas éviter de faire, puisque lui, il a une petite technique comme ça, un peu à l'ancienne. Il met la bouteille sur la table. Et donc, il y a un moment de convivialité au moment comme ça
de conclure
les commandes.
Ouais. Alors, au fond, il y a l'ancien, donc Giffard, puis la nouvelle, donc Clémence Alfaro. Qu'est-ce qui se joue dans le film? Qu'est-ce que finalement ils vont apprendre l'un de l'autre? Parce qu'en fait, tous les deux vont se remettre en question.
Ils vont apprendre à... Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Oui, c'est une bonne question. Plein de choses. Ils vont découvrir... Pour moi, ils vont découvrir...
Ils vont peut-être aller au-delà des clichés, des préjugés aussi.
Pour elle, par exemple, je pense qu'elle... Ce travail et cette relation va l'inciter à trouver... Avoir le courage d'une éthique, en fait, d'être elle-même, quoi. C'est-à-dire, au début, oui, elle va dire, je vais faire tout ce que je peux pour pousser vers la sortie. Et puis, petit à petit, elle se rend compte que c'est pas elle, quoi. Et donc, elle va devoir, elle aussi, résister. Et lui, il va s'attendrir à son contact, en fait. Il va découvrir qu'il a une sensibilité, que c'est une personne qui l'écoute et qu'il trouve certainement moins bizarre que la plupart de ses collègues. Mmh. Donc quelque chose qui va, oui, c'est ça, qui va se dévoiler, qui va s'ébrécher comme ça dans sa carapace.
Mmh. Un mot sur Zita Enroux, qui joue le rôle de Clémence Alfaro. Elle était César du meilleur espoir féminin en 2016 pour Fatima. Elle incarnait déjà cette jeune femme qui veut quitter son milieu de femme immigrée pour se lancer dans des études de médecine. Quel plaisir vous avez eu de l'avoir comme partenaire?
C'était un plaisir de complicité immédiate. C'est pas toujours le cas.
Des noms, Jacques Gamblin.
Non, mais ça a été tout de suite le même type d'humour. On a beaucoup rigolé. Fallait nous faire taire au moment du moteur. Ouais. Et ça a été comme ça dès le premier jour. Ça, c'est chimique. Hein. On sait jamais ça. Voilà. Alors déjà ça. Et donc ça induisait un plaisir de jouer ensemble automatique. Enfin, il n'y a pas eu à le chercher, quoi.
Jacques Gamblin, on parlait tout à l'heure de papier peint. Eh bien justement, dans notre rendez-vous animalier du mercredi, il y a un animal qui lui aussi adore faire tapisserie. On va le découvrir avec Agathe Dutot dans des éditions Fleurus pour notre rendez-vous Les Incroyables Talents des Animaux.
Alors, comment ça va, chien normal?
Oh, t'es super fort!
Mais on est plus fort que ce que vous croyez.
Tout doux, incroyables animaux.
Et bonjour Claire.
Bonjour Vincent.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un drôle de reptile, pas le plus gros, ni le plus venimeux, mais qui excelle dans l'art du camouflage, vous l'avez reconnu, même s'il se planque, c'est le caméléon. Alors expliquez-nous, Claire, d'abord comment il fait pour changer de couleur?
Eh bien, le caméléon change de couleur grâce aux cellules de sa peau. Certaines renferment des pigments, c'est-à-dire des substances colorées, et d'autres de minuscules cristaux capables d'agir sur la couleur de la peau en réfléchissant la lumière. Et en plus, comme le caméléon a un corps aplati, marbré, cornu et épineux, ça lui permet de se fondre facilement dans le feuillage.
Alors, se fondre dans le paysage. Justement, on dit qu'il peut changer de couleur. S'il le fait, c'est pour prendre celle de son environnement et mieux se camoufler face à d'éventuels prédateurs. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Eh bien non, c'est faux. Le caméléon changerait de couleur plutôt en fonction de son humeur. Détendu, il est plutôt vert, ce qui est effectivement bien pratique pour se cacher dans le feuillage. Mais s'il est en colère et veut faire peur à un rival...
Ah, s'il est ronchonchon, par exemple.
Voilà, exactement, s'il est ronchonchon, ou bien si c'est un mâle et qu'il courtise une femelle, alors il peut devenir très voyant en une minute. et afficher des couleurs vives et des motifs variés. Il va aussi changer de couleur s'il fait plus froid ou s'il a peur, par exemple.
Voilà, une façon de montrer les couleurs de son humeur. Est-ce qu'il y a d'autres particularités à noter du caméléon ?
Eh bien, d'abord, concernant sa peau, il faut savoir que, comme tous les lézards, le caméléon mue 2 à 3 fois par an. La vieille peau se détache par lambeaux, découvrant progressivement une peau toute neuve.
Voilà ce qui s'appelle changer de peau. Est-ce qu'il il a aussi des yeux qui sont très globuleux ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a une vision incroyable aussi, Claire ?
Oui, alors tout à fait. Le caméléon a des yeux qui peuvent, d'abord, bouger dans tous les sens. Et surtout qui sont indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il est ainsi capable de surveiller le sol avec un œil pendant que l'autre regarde en l'air.
Ben ça, c'est très très pratique hein, pour les enseignants, ouais, oui. Les pions, hein. D'être partout à la fois.
Tout à fait. Oui. Le caméléon reste ainsi sans bouger toute la journée, attentif au moindre mouvement avec ses yeux qui explorent tout autour. Et il a aussi une langue incroyable.
Une langue incroyable, c'est-à-dire ?
Eh bien, sa langue est si longue qu'elle dépasse la longueur de son corps tout entier. Vous imaginez, elle fait une 20aine de centimètres. Le caméléon se nourrit d'insectes. Au repos, sa langue va être repliée autour d'un os. Et au moment de saisir sa proie, en l'espace d'un éclair, sa langue va être projetée comme un ressort. Elle est imbibée d'une salive gluante. Elle retient ainsi la proie après l'avoir assommée. Puis elle revient à la bouche.
Décidément, j'aimerais pas être une mouche. Il a tous les atouts pour chasser. Hein. Peut-être une dernière particularité pour terminer, Claire ?
Mais oui, tout à fait. Et le caméléon vit généralement dans les arbres. Et il est équipé en conséquence. Ses pattes sont munies de griffes pour s'agripper aux branches. Et il enroule aussi sa queue autour des branches pour parfaire son équilibre. Bref, c'est un vrai acrobate.
Voilà, si on faisait un podium des animaux les plus incroyables, je pense qu'il aurait toute sa chance. Grâce à quel livre vous êtes devenue experte en caméléon, Claire ?
Alors j'ai appris plein de choses grâce à la grande imagerie sur les reptiles qui parle non pas de dragons mais de caméléons et aussi des serpents, des tortues ou encore des crocodiles.
Merci Claire pour cette chronique, j'allais dire haute en couleurs, et on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres incroyables pouvoirs des animaux. À bientôt.
Avec
Claire.
Avec plaisir, à bientôt.
Je suis le caméléon chanson et je change de nom quand tu changes de son. Je suis le caméléon chanson, vas-y dis-moi.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, alors question caméléon, elle n'avait pas changé de couleur, mais c'était non pas Agathe Dutot, mais Claire Decamp qui était avec nous il y a quelques secondes. Vous connaissiez les secrets du caméléon ?
Non, mais il y a une chose qu'elle n'a pas dite, c'est que comme ses deux yeux sont indépendants, si un œil veut aller vers un endroit et l'autre œil vers un autre, le caméléon se sépare en deux.
Ah oui ?
Vous le saviez ?
Non, je ne savais pas.
Malheureusement.
Il se coupe en deux. Non,
malheureusement, c'est une connerie.
Bon, voilà. Merci pour cette précision animalière, Jacques Gamblin. Alors, la nature, en tout cas, vous y êtes particulièrement sensible. En témoigne un discours que vous avez tenu le 28 novembre 2015. Mon climat, c'était son titre. C'est un texte que vous aviez écrit dans le cadre du Parlement sensible des écrivains lors de la journée Autrement le monde, poésie et écologie. Et apparemment, parmi ce discours, le vélo, vous aimez bien ça.
Prince du bitume, je gagne du temps, de l'énergie, de la fantaisie des chemins et des itinéraires, me joue des étoiles, des bastilles et des concordes aux heures de pointe, fait visquer les nerveux, nargue les prétentieux et réinvente la ville. Et surtout, je m'amuse. Ma deux roues m'a sauvé et je me sauve avec elle. Je me croyais condamné et captif de la cité, elle a fait repousser mes ailes fanées.
Voilà. Pourquoi avoir participé à cet événement, Jacques Gamblin ? C'était pas uniquement pour vanter les vertus de la bicyclette. Hein.
C'est Sylvie Goudbaron qui dirige les écrivains, la Maison des écrivains et de la littérature à Paris, et qui invite plein toute l'année d'écrivains qui vont aussi transmettre dans des écoles, dans des workshops, etc. Qui a commandé à 30 écrivains un discours sur le climat. Et ensuite, un livre a été édité chez Artaud qui s'appelait Du souffle dans les mots. Mmh. Et donc, elle m'a demandé, je faisais partie de ces 30 personnes et ce discours a été lu lors d'une soirée, d'une après-midi à Nantes au lieu unique poésie et écologie et ensuite est apparu sur YouTube sans du tout que j'étais consulté. Donc ça a commencé par m'énerver rouge parce que c'est m'a pas paru et puis parce que ça me paraissait pas le bon format 23 minutes de discours sur YouTube etc. Et puis j'ai commencé à j'ai appris parce que des amis m'ont dit, oh là là, on a entendu, hein, ça fait des millions et des, vraiment des millions de vues, ce discours climat. Et alors évidemment, j'ai calmé un peu ma colère parce que c'était des vues très positives. Mmh. Et voilà comment ça s'est passé.
Mais c'était une urgence à changer le climat, à se réveiller, à se mettre debout sur le climat. Mais je crois qu'on n'en est plus maintenant au constat.
Oui, bah c'est une conscience de l'environnement que j'ai depuis très, très, très jeune. J'allais manifester à Flamanville, dans le nord de la Manche. J'avais 17, 18 ans. Mmh. Voilà, je suis intéressé par ça, passionné par ça, et donc dans une forme d'incompréhension à peu près permanente de pourquoi on avance. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est gouverner sinon prévoir, et que ça fait quand même, voilà, comme d'autres l'ont dit avant moi et le diront après, plus de 50 ans qu'on avertit les États de l'urgence et voilà, de tout ce qui se passe maintenant et de ce qui va se passer après. Mais bon, on a regardé ailleurs.
On a regardé ailleurs. Jacques Gamblin, dans un instant, on ouvrira ensemble une petite boîte à questions mystères. Ce sera juste après une deuxième page musicale. Et cette fois-ci, après Asaf Avida, eh bien c'est de Blaise She, hein, c'est le titre de cette chanson. Là aussi, vous nous expliquez ce choix. Pourquoi elle ? Pourquoi She ?
C'est pourquoi elle, et surtout pourquoi l'électro ? Parce que c'est dance, parce que moi, j'ai une musique... voilà, si elle me fait pas danser.
Petite réminiscence de pédale douce, non, je sais pas. C'est très rythmé aussi, très disco.
Oui, hein, oui. Ouais. Bah oui, c'était les disco, ouais. Ouais. Non, mais simplement, voilà, si une musique me fait pas bouger le corps, il me manque toujours quelque chose. Et j'ai besoin de ces rythmiques, voilà, c'est à la fois un peu planant et à la fois comme ça syncopé. Ça met tout de suite en mouvement.
Eh bien,
c'est une très bonne raison pour moi.
Tout simplement. Eh bien, on va se mettre en mouvement avec Blaise et on se retrouve tout de suite après. Blaze.
Une musique qu'on peut imaginer où on est 200, 300, 3000 à danser sur cette musique un peu chargée comme ça et joyeux, etc. Mais moi, ça me suffit aussi d'être tout seul dans mon salon et je danse là-dessus comme si on était 3000 sur une plage en fait.
Blaise She, le show musical de Jacques Gamblin, l'inoubliable facteur cheval, ou plus récemment Paul Deschanel tombé du train dans Le Tigre et le Président avec André Dussollier en Clémenceau, pas commode. Il est à l'affiche le 17 mai prochain de Un homme debout de Florence Vignon. Alors la musique justement, vous dites pas non comme ici, écoutez.
Allez, dis-moi, le sax est baryton, trombone à coulisses, la trompette à piston, les congas en peau de phoque, contrebasse, contrebasse, charleston, tom basse, tom médium. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes ?
Voilà un extrait de Ce que le jazz fait à ma jambe, un spectacle que vous avez donné en 2015 au Théâtre du Rond-Point. Alors moi, je ne connaissais pas ce goût pour le jazz. Jardin secret, Jacques Gamblin.
C'est une rencontre plus qu'une passion pour le jazz. C'est la rencontre avec Laurent de Wilde. On s'est rencontrés. Denis Lebas, qui dirige le festival Jazz sous les pommiers, nous a fait nous rencontrer. Et à partir de là, on a décidé de faire un spectacle ensemble avec ces musiciens. On était 7 sur le plateau. On a traversé la France avec ce spectacle. Il me manque ce spectacle, en fait. Voilà. Et Laurent est devenu un ami. Et tout ce que là, l'extrait que j'entends, là, je voudrais m'y retrouver à nouveau. Parce que bon, je suis pas chanteur, mais je me sentais dans cette place-là. Ouais. C'était merveilleux, ce spectacle, avec ses musiciens, tout ce qu'on a fait ensemble. Voilà, c'était extraordinaire.
Pourquoi pas? On attend de vous revoir sur scène dans ce domaine-là. Jacques Gamblin, on a une tradition dans cette émission. C'est une petite boîte qu'on va tout de suite ouvrir ensemble.
La boîte à tout doux.
Mes mains, je vous montre, j'ai un petit coffret en bois. À l'intérieur, il y a des cartes, au dos de chacune une question pour mieux vous connaître. Alors le principe est simple, hein, je vais battre ce jeu de cartes. On va tirer 3 cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante. Vous avez droit à un joker si ça vous inspire pas, mais de toute façon, il n'y a absolument rien d'indiscret. Je ne vous demanderai pas le chiffre d'affaires de Giffard. Alors allons-y, je remue les cartes. Est-ce que vous êtes prêts pour la première?
Oui.
Allez, on y va pour la première. Alors, vous gagnez 3 millions au loto, qu'est-ce que vous en faites?
Ah bah, c'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure.
Oui, non, j'ai pas posé, c'était en guise d'exemple, mais je pensais pas la tirer. Donc,
l'exemple a été tiré. Qu'est-ce que j'en fais? Je pense que j'ai eu assez de chance dans ma vie comme ça et assez bien gagné ma vie jusqu'à présent pour ne pas m'en servir moi-même de cet argent. Non, je donne à des causes. Mais là, je choisirais c'est-à-dire plusieurs petites associations, entre autres environnementales. Oui, c'est sûr que c'est ça que je ferai.
Donc 3 millions pour la nature, c'est déjà pas mal pour donner un petit coup de pouce.
Oui, parce qu'il faut aider l'État qui ne fait que trop peu.
Trop peu. Allez, je continue de battre le jeu de cartes. Vous m'arrêtez quand vous voulez.
Ah oui, je vous arrête là.
Alors... Ah bah tiens, la partie de votre corps que vous préférez, celle-là je voulais pas donner un exemple tout à l'heure, la partie de votre corps que vous préférez.
Oh bah je sais pas, peut-être mes mains quoi.
Oui, pourquoi les mains?
Parce que j'ai la chance d'avoir hérité de ma mère des doigts dont on dit communément des doigts de pianiste quand je vois ceux de Laurent de Wilde qui sont plus courts que les miens et de voir que ce qu'il fait avec je me dis que ça c'est des ondits quoi, enfin c'est des clichés quoi, les mains de pianiste, mais bon, je suis heureux de mes mains, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir ces mains là. Voilà,
les mains,
elles peuvent prendre beaucoup.
Vous avez de préférence main droite, main gauche ou non les deux en même temps?
Non, on va s'arrêter sur ces précisions. L'essentiel, c'est qu'elles peuvent prendre un corps, elles peuvent toucher un corps. Moi, je suis pas l'amoureux des baisers, enfin des bises. Voilà. Non. Moi, j'aime prendre un corps dans mes bras. Je trouve que la bise, c'est un peu c'est petit. Voilà. Moi, j'aime bien communiquer avec tout mon
corps. Comme geste d'amour et de communication.
D'amitié, voilà.
Allez, une dernière question. Je continue de brasser le jeu. Vous êtes prêt pour la dernière?
Je suis prêt.
Allez, on y va. Votre plat préféré. Si vous avez un plat préféré. Est-ce que vous êtes gourmet? Est-ce que vous aimez cuisiner?
Mon plat préféré, c'est surtout l'endroit où je le mange, en fait. C'est pas tellement le plat, je crois que je préfère manger une chose pas forcément très bonne en regardant la mer qu'un plat gastronomique. Alors bien sûr, il n'y a pas de raison d'avoir le choix entre les deux, hein, on peut faire les deux, mais dans un restaurant prestigieux, mes glandes gustatives seront très très heureuses. Mais
votre dernier plaisir gustatif devant un paysage, ça a été quoi, vous en rappelez?
Un mauvais sandwich.
C'est ça votre souvenir, votre plat préféré?
Non, non, bon alors, trêve de plaisanterie, je sais pas. C'est pas des plaisanteries d'ailleurs, ce ouais. que je dis. Pour moi, le contexte est tellement plus aussi important que... Je sais pas, je vais dire des... Ouais, non, mais, oh là là, je viens de faire, par exemple, voilà, ben, je viens de faire, c'est très con, c'est très simple, des pommes de terre nouvelles qui viennent ouais. de sortir de terre, là, tout de suite maintenant, au four, comme ça, avec un peu de gros sel et des gousses d'ail entières en chemise, comme ça, et un filet d'huile d'olive, tout ça, on laisse chauffer. Et si les pommes de terre, si la matière première est, est bonne et j'essaye d'acheter des choses qui sont, voilà, qui n'ont pas été trop salopées par tout ce qu'on sait, alors c'est merveilleux. J'aime les choses simples, en fait, très simple, à partir du moment où le produit premier est bon, il n'y a pas de raison de le tripoter, en fait.
Voilà pour la recette du jour de Jacques Gamblin. Merci de nous avoir donné la patate, hein, Jacques Gamblin, si je puis dire. On se retrouve dans quelques instants pour terminer ensemble cette émission.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve.
Voilà, une chanson tirée du film Un homme debout, qui est d'ailleurs l'une des scènes finales à la portée très symbolique, hein, Jacques Gamblin. Je ne sais pas si on peut en dire un petit peu plus sur cet interprète, sur cette chanson.
Ah, on peut dire un petit peu plus, allez-y.
Non, mais je vous en prie.
Bah, c'est un chant de résistance, c'est le Chili, voilà, tout ce qui s'est passé au Chili est un chant de résistance.
Ouais, chant de résistance, puisque Clémence Alfaro, justement, est originaire du Chili. Elle n'a jamais remis les pieds dans ce pays depuis qu'elle est arrivée en France pour mieux s'intégrer. Et elle va complètement changer d'horizon. Un homme debout de Florence Vignon, un film qui sort le 17 mai prochain. C'est un film qui est plein d'humanité, qui nous incite à ne pas baisser les bras, même quand il s'agit de tapisser du papier peint. On est bien d'accord, hein, Jacques Gamblin.
Wow.
Prochain projet au cinéma, au théâtre, à l'écriture?
Non, pas trop de projets.
Pas trop
mal.
De projets
pour
l'instant.
En fait, je suis plus dans l'écriture. Là, depuis que j'ai fini cette tournée avec Raphaël Delaunay, ce duo qui s'appelait Hop et qui réapparaîtra en surface à partir de novembre en tournée dans toute la France, tout ça. Là, je suis plus dans l'écriture et avec en prévision un livre ou voire deux livres, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas chez qui, mais en tout cas en moi.
En moi. Eh bien, grand merci Jacques Gamblin d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi Pierre Samanos qui est resté non pas debout mais en régie technique. Demain, c'est une drôle d'histoire qu'on vous racontera. Comment un tableau libertin de Fragonard s'est-il retrouvé le pendant d'une scène d'adoration des bergers devant la naissance de l'enfant Jésus? Eh bien, on découvrira les coulisses de cette œuvre avec Anne de Marnac. C'est une grande spécialiste des représentations de la beauté au féminin. Je ne sais pas si vous connaissez Fragonard, Jacques Gamblin, si c'est un peintre
qui
vous attire.
Oui,
on découvrira
une
autre facette de ce peintre-là. On va se quitter en musique avec un dernier titre que vous nous proposez. Alors, ce titre, je ne l'ai plus sous les yeux, mais voilà, celui-là. Un extrait de Tia Lassine enregistré au Arte Concert Festival 2022 Playel. Deux mots rapides pour nous expliquer ce choix.
Pareil. Alors ça, c'est une découverte très très récente parce que j'ai un ami comme ça qui m'abreuve de découverte et on fait ça aussi réciproquement, mais lui encore plus que moi. Et l'autre jour, il m'a montré un concert d'Evon Albarn aussi sur Arte. Et là, la dernière fois, c'était cet artiste qui joue de plusieurs instruments. On est aussi dans l'électro, mais avec différent. Là, c'est pas une guitare qu'il a, c'est une, je sais plus comment cet instrument s'appelle. C'est très beau, écoutons.
Eh bien, on va écouter.
Et dansons surtout.
Et surtout dansons.
Oui,
merci Jacques Gamblin d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.
Merci.